This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 90 Minutes Info. Avec au sommaire cet après-midi, Pierre Palmade sera bel et bien incarcéré à la prison de Fresnes. La cour d'appel de Paris a décidé ce matin du placement en détention provisoire de l'humoriste. Il était jusque-là assigné à résidence et a été transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre ce week-end suite à un AVC. Ce week-end, Emmanuel Macron a inauguré le Salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Le président de la République qui, toute la journée, a déambulé dans les allées du salon à la rencontre des agriculteurs, des éleveurs et aussi d'autres personnes venues l'interpeller au risque parfois de se frotter aux gardes du corps du président. Et puis la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, promet une aide financière spéciale pour les athlètes ukrainiens. Une décision controversée qui a fait réagir une athlète française. Elle dénonce les difficultés de certains sportifs français contraints de créer des cagnottes pour financer leur préparation aux Jeux Olympiques.
C'était aussi l'occasion de dire, vu que les caisses ne sont pas vides, profitons-en pour parler aussi des problématiques que rencontrent les sportifs français qui préparent les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Voilà, on va développer tous ces sujets en compagnie de mes invités. Je vous les présente dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, signé Adrien Spiteri.
Elisabeth Borne est au Salon de l'agriculture aujourd'hui, deux jours après la visite d'Emmanuel Macron. La première ministre a déjeuné avec les organisations professionnelles agricoles. Au menu des discussions, la sécheresse et le coût de l'énergie selon Matignon. Elisabeth Borne finira sa visite par une rencontre avec les éleveurs. Ursula von der Leyen appelle à avancer sur la réforme du droit d'asile. La chef de la Commission européenne a réagi au nouveau naufrage d'une embarcation au large des côtes italiennes. 62 migrants ont perdu la vie et près de Crotone en Calabre hier. Depuis le début de l'année, près de 14 000 migrants ont débarqué en Italie. Et puis top départ de l'opération militaire Orion. Elle a débuté ce samedi. Plus de 7000 soldats sont mobilisés dans le sud de la France. Le but, préparer les armées à un engagement majeur alors que la guerre continue entre la Russie et l'Ukraine. Des partenaires européens et les États-Unis y sont associés.
Merci beaucoup Adrien Spiteri pour le rappel des titres CNews. 90 minutes info avec cet après-midi Jonathan Sixou, journaliste chez Causeur. Bonjour.
Bonjour Mickaël.
Sébastien Codesso, avocat, bonjour.
Bonjour,
bienvenue. Et puis Eduardo Rian-Sipel, porte-parole Territoire de Progrès, bienvenue. Merci d'être avec nous cet après-midi en direct. C'est l'information de la journée. Pierre Palmade placé en détention provisoire. La cour d'appel de Paris a rendu sa décision peu avant midi. Et on a appris il y a quelques instants que Pierre Palmade sera incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes. Les précisions de Jeanne Cancard, qui est actuellement devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où se trouve toujours Pierre Palmade. Jeanne.
Oui, Mickaël, et pourquoi cette maison d'arrêt de Fresnes? Eh bien, tout simplement parce que Pierre Palmade pourra être soigné là-bas. On le rappelle, l'humoriste de 54 ans est actuellement en cure de sevrage. Il a également subi un AVC samedi dernier. C'est pour cette raison qu'il a été transféré ici, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Et justement, dans cette maison d'arrêt de Fresnes, eh bien, il y a une unité hospitalière et qui dépend justement du Kremlin-Bicêtre, de cet hôpital dans lequel est actuellement au service neurologie vasculaire. Alors, la question qui reste cet après-midi en suspens, c'est quand Pierre Palmade sera-t-il incarcéré? Eh bien, cela dépend des feux verts de ses médecins qui diront si oui ou non son état de santé est jugé compatible avec l'incarcération. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le procureur de Melun peut aussi mandater, déployer des médecins externes à l'hôpital, des médecins experts qui pourront examiner l'état justement de santé de Pierre Palmade et savoir quand il pourra être transféré donc à la prison, à la maison d'arrêt de Fresnes.
Merci beaucoup Jeanne Cancard en direct donc de cet hôpital du Kremlin. Bicêtre, Sébastien Codesso, est-ce que vous avez été surpris d'abord par cette décision compte tenu des derniers éléments du week-end? Il faut rappeler, et Jeanne Cancard vient de nous le dire, que Pierre Palmade a été victime d'un AVC ce week-end. Il a été transféré en urgence à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. On aurait pu imaginer que la Cour d'appel reporte une nouvelle fois sa décision.
Alors, est-ce que j'ai été surpris de la connaissance partielle que j'ai du dossier, c'est-à-dire des éléments qui filtrent dans la presse? Oui, je dois vous le dire, je suis quand même assez surpris de ces éléments que je connais et de la connaissance que j'ai aussi du droit et de la procédure pénale. Voilà. Si vous voulez, juste une chose à rappeler quand même, c'est qu'on place quelqu'un en détention si la détention n'est pas contraire à son état de santé. Voyez. Et donc là, en l'espèce, entre le problème d'addictologie qu'il a plus ce week-end, cet AVC, oui, je vous fais part quand même de ma surprise.
Après, on peut imaginer qu'il va pouvoir poursuivre ses soins au sein de la maison d'arrêt de Fresnes. C'est ce que nous disait Jeanne Cancard. Édouard Dorian-Sipel.
D'abord, je veux, comme tout le monde, adresser mes pensées aux victimes de cet accident tragique qui choque tous les Français. Et je crois que c'est important au moment où on sait que une partie des victimes sont encore à l'hôpital dans une situation incertaine. Ça, c'est la première chose. Est-ce que je suis surpris par cette décision de la Cour? Non. Parce que, effectivement, compte tenu des éléments que nous connaissons et qui sont à notre connaissance à ce stade, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, je pense que les magistrats ont dû s'assurer que la détention pouvait être compatible avec l'état de santé de Pierre Palmade. Je pense qu'ils n'auraient pas pris le risque si les experts médicaux avaient dit le contraire. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas communicable, ni communiqué, ni à ce stade, ni plus tard, c'est que peut-être que les magistrats, à juste titre, cherchent aussi à se protéger et à protéger Pierre Palmade. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plutôt éviter la question de savoir s'il y a aussi des risques peut-être de suicide chez Pierre Palmade. On peut tout à fait le comprendre. Et peut-être même que pour protéger la justice, de l'avoir devant elle un jour, et très bientôt sans doute, peut-être que c'était plus sûr de le garder sous surveillance, y compris parce que je pense que les faits peuvent aussi tout simplement permettre une détention provisoire, parce que l'émotion que ça produit dans tout le pays, la gravité des faits, peut-être les nouveaux éléments aussi par anticipation, même s'il faut les dissocier du point de vue du droit, je pense à la possibilité de pornographie infantile, en tout cas d'images qui serait en sa détention.
Même si on a beaucoup dit que cet élément, cette partie-là de l'enquête ne devait pas peser dans la décision qui a été prise.
Il y a le droit qui doit être respecté et je pense que les magistrats peuvent aussi voir les différents facteurs de risque. Et je pense que la question, si j'étais magistrat, ce n'est pas mon métier, mais je pense et je pose la question ici, est-ce que par exemple, demain, si la Cour avait mis un contrôle judiciaire pour Pierre Palmade avec un bracelet électronique, et s'il se suicidait? Parce que c'est quand même quelque chose qui, y compris pour lui-même, je pense que peut-être la meilleure façon d'assurer sa sécurité, si c'est compatible avec son état de santé, donc les soins pour notamment son AVC qui est un élément nouveau, et aussi prévenir une possibilité de suicide, je pense que c'est une décision qui protège la Cour, mais ça a aussi la responsabilité aussi ensuite au pouvoir public, aux autorités, de garantir totalement la sécurité de Pierre Palmade, et aussi sur le point de vue aussi bien du point de vue de sa santé que d'une atteinte contre sa propre personne, c'est-à-dire un suicide. Je pense que c'est une décision qui peut tout à fait se justifier du point de vue du droit quand on est un magistrat, quand on est face à tous ces éléments du dossier. Et après tout, c'est grave ce qui s'est passé. C'est grave ce qui s'est passé. Et je pense qu'on est en situation de porter une réflexion simple, sérieuse, y compris du point de vue du droit, face à des accidents de la route qui sont produits parce que on est dans un état sous drogue, sous une addiction quelconque. Ça, c'est quand même quelque chose qui doit être posé parce que ce qu'il y a de terrible dans cette affaire Palmade, c'est que c'est aussi tragique que banal. Pardon de le dire avec aussi autant de violence dans les mots. Alors, c'est banal parce que tous les jours, vous avez des morts sur la route. Je pense qu'on est quasiment à un mort par heure, peut-être un peu moins aujourd'hui, sur les routes de France.
Et certains sous l'emprise de stupéfiants.
Voilà. Et on sait que ça aggrave. Et donc, il y a une très grande irresponsabilité dans sa conduite. Et ce n'est pas parce que lui-même est victime de lui-même, mais les dégâts que ça pose, je pense que franchement, une détention provisoire, si c'est compatible avec son état de santé, et aussi pour prévenir la victime contre des atteintes portées sur elle-même, c'est-à-dire un suicide possible, je pense qu'on a là une décision qui me paraît tout à fait rationnelle de la part des magistrats.
Alors moi, j'ai une autre question, et je vais vous la poser à vous, Jonathan Sixou, puisque vous n'avez pas encore pris la parole. La Cour d'appel a-t-elle cédé à la pression populaire et médiatique qui voulait que Pierre Palmade soit incarcéré, qui avait tendance à dire « c'est une célébrité, il y a une forme d'impunité avec les célébrités, il n'ira jamais en prison ».
Et l'expression qu'on a entendue ces dernières semaines, c'est « Pierre Palmade, est-il, sera-t-il injusticiable comme un autre ?» Avec son incarcération décidée aujourd'hui, je continue de penser qu'effectivement, il n'est pas injusticiable comme un autre. Cette sévérité n'est pas, quand on voit, non pas la mansuétude, mais la certaine facilité avec laquelle on peut mettre la justice peut émettre différentes décisions pour permettre à des individus dangereux d'être en liberté provisoire conditionnelle. Cette incarcération est pour le moins étonnante, et on peut penser effectivement que la justice a cédé à la pression médiatique. Je voulais d'abord commencer, comme l'a fait Eduardo, par une pensée évidemment et avant tout à ces victimes de l'accident et à cette famille qui est meurtrie à vie. Pour autant, on peut légitimement se poser des questions sur la façon dont sera traité le cas Palmade. Il est encore, à l'heure où nous parlons, dans une unité médicale, dans un hôpital, sous surveillance. Il est de facto privé de liberté. On sait que les unités médicalisées, qu'elles soient d'ordre de médecine générale ou psychiatrique, vraiment des unités verrouillées. Vous n'avez pas plus de liberté de circulation que vous pouvez en avoir en prison. Il va être peut-être, selon son état de santé, incarcéré à Fresnes. On sait, on en parlait avant l'antenne, quel est l'état des soins derrière les barreaux. On ne guérit pas en prison, on ne soigne pas bien en prison. Et on sait aussi que deux tiers des prisonniers qui sortent de prison, une fois qu'ils ont purgé leur peine, ont des problèmes.
Donc pour vous, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise décision, le fait de le mettre en détention provisoire.
Si la justice considère, comme le soulignait Eduardo, qu'il faut le protéger de lui-même, vu qu'il n'y a pas un risque de fuite, un risque de quitter le territoire ou autre, c'est pour le protéger de lui-même. Et s'il le faut le protéger de lui-même, il faut d'abord le sauver de ses addictions. Et je vous le redis, je ne pense pas que ce soit les services qui font bien leur travail, mais qui n'ont pas les moyens, on revient toujours aux questions de moyens, et le temps de pouvoir suivre sérieusement des patients qui mériteraient des soins personnalisés et approfondis.
Alors avec nous, par téléphone, une personne qui, à mon avis, est du même avec vous, qui a très bien connu Pierre Palmade et qui était son tout premier producteur, c'est Claude Fournier, qui est au téléphone avec nous cet après-midi. Claude, d'abord, bonjour, merci d'être en direct avec nous dans 90 Minutes Info cet après-midi. D'abord, votre réaction après cette décision, Pierre Palmade va aller en prison, vous comprenez cette décision ?
Alors, je ne la comprends pas. Je vais vous dire pourquoi. Allô ?
Allô, alors on ne vous entend pas très bien, Claude. Dites-nous quelques mots.
Je vais essayer de faire autrement.
Non, on vous entend mieux.
Ah bon, bah alors ça va. Voilà, oui, je suis un peu surpris parce que j'écoutais Eduardo il y a quelques minutes. Je partage assez, même pas mal ce qu'il vient de dire. Le problème, c'est que là, on n'est pas au moment du jugement. On est au moment de prise de position qui va permettre d'arriver jusqu'au procès. Mais est-ce que l'on va arriver au procès ? Parce que vous ne connaissez pas Pierre Palmade, moi je connais le garçon depuis ses 18 ans. Et je peux vous dire que déjà, il était très tourmenté quand il avait 20 ans. Je me souviens d'une anecdote où on l'a fait hospitaliser sous X. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un procès, et là, ce qui serait dramatique pour les vraies victimes que sont la famille, c'est qu'il n'y ait pas de procès.
Clairement, quand vous dites ça, Claude Fournier, vous pensez que Pierre Palmade risque de mettre fin à ses jours en prison ?
Michael, rappelez-vous ce qu'on s'est dit vendredi. Je vous ai dit que j'étais pas sûr qu'il y ait le procès parce que je pensais qu'il pouvait attenter à ses jours. J'avais pas du tout pensé à ce qu'il puisse faire un AVC samedi suite à toute cette pression. Il n'est pas victime, hein. Il est coupable. Enfin, à mes yeux. Moi, je suis du côté des vraies victimes. Mais par contre, si les vraies victimes veulent justice, il faut qu'ils soient rétablis pour assister à un procès juste et qu'il y ait des réparations. Sinon, à quoi ça sert ?
Racontez-nous comment est-ce que vous avez connu Pierre Palmade, Claude Fournier ?
C'est simple. On fréquentait un restaurant dans les Halles où on se disait bonjour tous les jours. Moi, je produisais à l'époque, c'était un gros succès, un imitateur qui est maintenant plus comédien qu'imitateur, c'est Didier Gustin. Et on faisait un carton au Café de la Gare. Et un jour, on s'est retrouvé au restaurant. Et Pierre m'a invité à ce spectacle au Point Virgule. Et je lui ai tout de suite proposé. Alors j'ai pris c'était un uppercut, hein, le spectacle. Un gamin de 18-19 ans qui vous sort le colonel et tout le reste. Je peux vous dire que c'est surprenant. Et là, j'ai tout de suite proposé. J'ai fait une offre tout de suite pour le produire. Ça s'est fait en 3 jours.
La drogue, il en prenait déjà à 18 ans ?
Ah non, non, quand j'ai connu, il ne prenait pas de drogue. Ou alors, attendez, moi j'avais 30 ans, hein, j'étais un jeune producteur, je démarrais, j'avais juste un artiste, c'est Augustin, et je peux vous dire que moi, à l'époque, je ne buvais pas, et la drogue, je ne savais même pas ce que c'était. Alors peut-être qu'il en prenait, mais moi, je ne m'en rendais pas compte. J'ai mis un an, c'est au bout d'un an que je m'en suis rendu compte.
Au bout d'un an, d'accord. Eduardo Riancipel.
Non, je suis très sensible à ce que vient de dire Claude Fournier et je comprends ce qu'il peut ressentir parce que quand on connaît quelqu'un depuis 30 ans, on ne peut pas être autrement que bouleversé dans ce tragique où à la fois Pierre Palmade est responsable de ce qu'il a fait et devra en répondre devant la justice. Je pense que c'est très important d'appuyer là-dessus et je pense que c'est important de distinguer les problèmes. Il faut que Pierre Palmade réponde à la justice, il faut qu'il soit condamné parce que je crois, qu'il est clairement responsable de ce qui a été fait, même s'il faut laisser la justice déterminer les faits dans leur exactitude autant que possible. Mais il y a aussi clairement un homme qui va mal. C'est pas pour s'apitoyer sur le sort de M. Palmade, c'est pas le sujet, mais je crois qu'on n'a pas besoin d'être un professionnel de la psychiatrie, de la santé mentale, ou être un psychanalyste ou un psychologue, pour comprendre que l'attitude de Pierre Palmade, en l'occurrence, est manifestement suicidaire. Que ce soit la toxicomanie, qui est une souffrance, qui est une addiction, qui cherche à répondre à un mal-être de la personne et qui n'explique pas tout, qui ne doit pas être là pour simplifier les choses. Mais je pense que son attitude, cette attitude ultra-excessive, où la drogue et la démesure poussent à des conduites à risque de type morbide, prendre sa voiture alors qu'on est totalement défoncé, c'est typiquement suicidaire. Alors déjà là, un comportement qui est d'ordre suicidaire, avec en plus un accident qui a conduit des gens à la mort, en tout cas ce bébé qui devait naître.
Alors justement, Claude Fournier, on s'est eu vendredi
si c'est
au
pas
téléphone.
Le signe qu'il y a en lui, et je termine, qu'il y a quelque chose comme une pulsion de type suicidaire qui a besoin d'être traité, si on veut qu'il soit devant la justice un jour. Bah, je crois que ça permet aussi peut-être de répondre à la décision qui a été celle des magistrats.
Très bien en prison. La prison n'empêche pas le suicide.
Je suis d'accord, mais c'est à l'administration pénitentiaire. Et là, c'est pour le coup, c'est intéressant, parce que pour le coup, les magistrats ordonnant cela, il est maintenant de la responsabilité des autorités publiques de préserver la sécurité et la santé de Pierre Palmade.
On sait très bien que c'est mal fait en prison, que ce soit la protection des suicides. C'est très facile de se suicider en prison. C'est quelque chose que j'ai déjà dit
peut-être
sur ce plateau.
Peut-être moins que chez soi, en contrôle judiciaire.
Mais là, il n'était pas chez lui.
Là, il était dans un établissement de santé, un établissement d'addictologie, dans lequel il était traité. Je veux dire, on a une surpopulation carcérale en France qui est monstrueuse. On a 30% des détenus qui sont en détention provisoire, donc qui sont quand même présumés innocents. Là, on a quelqu'un pour qui on avait une solution qui était médicale. Qu'on ne me fasse pas croire qu'en prison, il sera bien pris en charge. Ça n'est pas le cas.
Alors, attendez, on va redonner, s'il vous plaît, la parole à Claude Fournier, parce qu'il nous reste 2 minutes avant la pub. Juste une question, Claude, parce qu'on s'est parlé vendredi au téléphone. Vous m'avez dit que vous n'étiez malheureusement pas surpris de ce qui arrive aujourd'hui à Pierre Palmade. Il est, pour rappel, visé par 3 enquêtes, dont une pour détention d'images à caractère pédopornographique. Ça aussi, ça ne vous a pas surpris ?
Si, ça me surprend. Au contraire, ça me surprend parce que Moi, quand je fréquentais Pierre, il fréquentait des jeunes hommes, mais de son âge. Donc moi, je n'ai jamais été le témoin, direct ou indirect, ou entendu une conversation. Alors, et en plus, quand on nous parlait, rappelez-vous, sur tous les médias, il y a 15 jours, qu'il était avec des jeunes gens là, qu'on avait vus de 18, 20 ans, etc. Et 2 jours après ou 3 jours, on s'aperçoit qu'il a 30, 40 ans. Donc, je ne peux pas parler à la place de l'enquête ou des résultats de l'enquête. Mais est-ce que c'est pas un mec chez lui qui a téléchargé des choses parce que des fêtes chez Pierre Palmade, il y a tellement de gens qui viennent, ça dure tellement de temps que tout le monde sait utiliser les ordinateurs et tout. On n'en sait rien. Il faut attendre que l'enquête donne son résultat. Il faut arrêter d'aboyer avec. Je trouve qu'il y a une curée, même si Pierre Palmade pour moi est coupable. Et il y a une curée médiatique. Il y a eu Michael Jackson, Strauss-Kahn et Pierre Palmade, quoi. J'ai jamais vu autant de couvertures de journaux, les unes de TF1, enfin, tout, les 24 heures sur 24 sur vos antennes, il y a sûrement d'autres choses à dire.
Merci beaucoup en tous les cas, Claude Fournier. Je rappelle que vous êtes vous-même un ancien cocaïnomane, vous aviez d'ailleurs sorti un livre sur le sujet. On peut rappeler le titre de votre livre ?
Ça s'appelle « Ligne brisée », qui est publié chez Michel Lafon en 2007, qui était l'explication de mon parcours de vie, et surtout un appel à arrêter cette merde et à ne pas en prendre.
Et vous vous en êtes sorti?
Oui, mais j'en paye le prix aujourd'hui. C'est pour ça que vous ne me voyez pas à l'antenne. J'ai des problèmes de santé.
Merci en tous les cas beaucoup, Claude Fournier. Je rappelle que vous êtes le premier producteur de Pierre Palmade.
J'ai produit les deux premiers spectacles avec un qui s'appelait « Ma mère aime beaucoup ce que je fais » avec le colonel et l'autre « Je connais » avec le Scrabble.
Merci,
pas mal quand même.
Merci beaucoup Claude Fournier. On marque une pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de 90 minutes info en direct sur CNews. Restez avec nous. De retour sur CNews pour la deuxième partie de 90 minutes info, toujours en compagnie de mes invités Jonathan Sixou, Sébastien Codesso, Eduardo Rian-Sipel. On va poursuivre nos débats dans un instant et on va parler d'Emmanuel Macron qui a inauguré ce week-end, le salon de l'agriculture porte de Versailles, le président de la République qui toute la journée a déambulé dans les allées du salon à la rencontre des agriculteurs, des éleveurs et aussi d'autres personnes venues l'interpeller au risque parfois d'être un petit peu limite avec le service de sécurité du président. Regardez.
J'ai 26 ans, monsieur. Mon avenir, je fais quoi? Je le laisse aller à la poubelle, je vous laisse le mettre à la poubelle. Mon avenir, on n'arrêtera pas parce que là, on peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça, sinon ça va être terrible ce qui se passe.
Vous êtes la démonstration.
Vous avez déjà entendu?
Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique. Non.
Allez, on en parle dans un instant, juste après. Le journal, il est quasiment 16h et c'est avec Simon Guilin. Bonjour Simon.
Bonjour Mickaël et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. On commence ce journal avec l'information de la journée. Pierre Palmade va donc aller en prison. La Cour d'appel de Paris a rendu sa décision à la mi-journée. On va tout de suite aller devant l'hôpital Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne retrouver Jeanne Cancard et Alexandre Distel. Bonjour Jeanne, Pierre Palmade est donc pour le moment toujours hospitalisé là où vous vous trouvez. Il va donc être incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes, Jeanne.
Oui Simon, Pierre Palmade est toujours ici au service neurologie vasculaire. Il faut savoir que désormais, eh bien, sa chambre elle n'est plus gardée par une simple patrouille de police, mais bien par des agents de surveillance de la pénitentiaire. Pierre Palmade qui devrait donc être incarcéré selon nos informations à la maison d'arrêt de Fresnes. Pourquoi cette maison d'arrêt? Eh bien parce que là-bas il y a une unité d'hospitalisation. Donc là-bas Pierre Palmade pourrait être soigné. On le rappelle, le comédien, l'humoriste âgé de 54 ans est actuellement en cure de sevrage et samedi dernier il a subi un AVC à l'hôpital Villejuif avant d'être transféré donc ici au Kremlin-Bicêtre. Et la question qui reste évidemment en suspens, c'est de savoir quand va-t-il être incarcéré. Et bien cela dépend du feu vert de ses médecins qui sont actuellement à son chevet et également d'autres médecins externes extérieurs à l'hôpital pourraient être dépêchés ici pour examiner son état de santé, savoir si oui ou non il est compatible avec une incarcération.
Merci beaucoup Jeanne Cancard pour toutes ces précisions et merci donc à Alexandre Distel qui vous accompagne cet après-midi dans le Val-de-Marne. On poursuit ce journal avec cette information. La France va aider les athlètes ukrainiens pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a annoncé une aide d'1 million d'euros. Alors cette annonce fait déjà beaucoup réagir, notamment les athlètes français qui ont pour certains du mal à boucler leur fin de mois. Et vous allez voir que certains sont même contraints de lancer des cagnottes. Les témoignages ont été recueillis par Maureen Vidal. Regardez.
C'est un message qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'athlètes français font des appels aux dons pour préparer les JO 2024, vivent avec le RSA ou enchaînent plus de 20 heures d'entraînement hebdomadaire, n'ont pas de retraite, doivent bénévolement faire des activités pour le grand public, vivent le sport. Cet athlète olympique dénonce les difficultés de certains sportifs français, contraints de créer des cagnottes pour financer leur préparation aux Jeux olympiques.
C'est une bonne nouvelle qu'on ait des budgets pour le sport français, qu'on est aussi on est en plein débat sur les retraites. Il y a un gros sujet sur les retraites des sportifs de haut niveau. Et donc, c'était aussi l'occasion de dire, vu que les caisses ne sont pas vides, profitons-en pour parler aussi des problématiques que rencontrent les sportifs français qui préparent les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
Elle souligne toutefois la solidarité nécessaire avec le peuple ukrainien.
La solidarité internationale à l'échelle du monde olympique a toujours existé et c'est une bonne nouvelle en tout cas que la France s'inscrive dans cette solidarité.
En France, les sportifs olympiques peuvent toucher les aides de la part de leur fédération, mais la plupart du temps, ils comptent sur leurs sponsors pour financer leur préparation aux Jeux olympiques.
Et juste avant de retrouver Mickaël Dorian et ses invités pour la deuxième partie de 90 minutes info, cette information, au moins un mort et des dizaines de blessés ce lundi en Turquie. Conséquence d'une secousse sismique de magnitude 5,6 dans le sud-est du pays. Une trentaine d'immeubles, vous les voyez à l'image, se sont également effondrés. Il s'agit en fait d'une réplique du séisme du 6 février dernier, un tremblement de terre qui avait fait plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie. Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h sur CNews. Chose promise, chose due, tout de suite, c'est Mickaël Dorian que vous retrouvez, ses invités pour la deuxième partie de 90 minutes info.
Merci beaucoup Simon Guilin. Ce week-end, Emmanuel Macron a donc inauguré le salon de l'agriculture à Paris, porte de Versailles. Le président de la République s'est offert une journée marathon de près de 13 heures samedi, journée durant laquelle il s'est fait à plusieurs reprises chahuter par des agriculteurs sur le sujet des retraites, en même temps on s'y attendait, mais aussi par des militants écologistes. D'abord dans la matinée, avec un jeune homme qui portait un t-shirt sur lequel était inscrit « À quoi tu sers ?» Regardez.
La Convention citoyenne pour le climat, elle a été balayée, les dénis démocratiques s'enchaînent. Je suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas, parce que là, on peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça, sinon ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Pourquoi? Regardez ça, pourquoi vous... Non, vous ne faites pas avancer la société. Vous nous menez dans le gouffre, des millions. Si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On ne s'arrêtera pas, il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire.
Vous n'êtes pas responsable. Monsieur, vous êtes la démonstration.
Vous avez déjà entendu.
Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique. Non, il n'y a pas de violence.
Non, c'est pas une violence civique. Vous nous poussez à bout. On a essayé les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. Vous êtes illégal, monsieur.
Mais ne dites pas ça.
Je suis là. C'est pas un débat, monsieur.
Jonathan Sixou, il prend des risques, le président de la République, lorsqu'il s'arrête pour répondre à ce genre d'invectives?
Il ne prend pas franchement de risque d'un point de vue risque physique. Son service de sécurité est là pour le protéger. Il y a eu dans le passé effectivement des dérapages. Ça s'est considérablement renforcé. Il est obligé en même temps d'aller au contact des Français, être à portée de baffe, comme disait Xavier Bertrand. Bien qu'on ne baffe pas un président de la République, on ne tutoie pas un président de la République, peut-être faudrait-il le dire à ce monsieur. Il n'est pas obligé de répondre à tout le monde. C'est son tempérament d'aller vers les gens, et il est plutôt bon dans cet exercice-là, d'aller vers les gens, de répondre aux gens. Et il l'a fait comme ses prédécesseurs. Le seul président de la Ve qui n'est pas honoré de sa présence, le Salon de l'agriculture, c'est François Mitterrand durant ses deux septennats. Et Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, aime ce rendez-vous parce qu'il doit y aller. Il doit y aller, même si on le sent un peu moins à l'aise dans les travées de la porte de Versailles qu'à l'Élysée pour accueillir les conférences sur la Start-up Nation. Mais si vous voulez, c'est le risque qu'il prend, et c'est là qu'on peut lui reconnaître un certain courage politique aussi, c'est qu'il va affronter, au sens propre du terme, des gens qui lui sont pour le moins hostiles. Il sait que quand il va aller là, en plein débat sur les retraites, On ne va pas que lui lancer des fleurs. Donc ça a été plutôt bien géré de ce point de vue-là. Il y a eu des moments où il y a eu de sérieux troubles, où des allées ont été fermées, il a dû être évacué, etc. Ça ne s'est pas fait sans heurts. Je note que la visite qui dure depuis ce matin, qui doit durer 10 heures en tout d'Elisabeth Borne, aujourd'hui se passe plutôt calmement selon nos informations. Ensuite, ce sont des images importantes aussi pour les Français, de montrer que notre monarque républicain peut parler avec le français du commun. Et que chacun peut lui dire, on lui a dit beaucoup de gentillesse aussi, on ne lui a pas dit que des horreurs.
Non. Bien sûr, on a l'impression que depuis Jacques Chirac, c'est un peu le concours du président qui restera le plus longtemps au salon de l'agriculture.
C'est Emmanuel Macron qui a battu le record lors de son premier mandat. Il est resté plus de 14 heures. Chirac n'est jamais resté plus de 14 heures au salon de l'agriculture.
Eduardo Riancipel, est-ce qu'il prend des risques, Emmanuel Macron, lorsqu'il va au contact comme ça d'un militant écologiste et qu'il lui répond finalement, alors qu'il pourrait aussi bien passer son chemin?
Le salon de l'agriculture est une grande tradition française, une figure qui est devenue imposée pour tout président de la République et pour beaucoup d'élus. Les Français y sont attachés, c'est un moment qui vient tous les ans. Voilà. C'est le salon de l'agriculture. Et à chaque fois que le président de la République met les pieds dehors ou même dans un salon, il y a toujours une part de risque qui est assumée et traitée par ses services de sécurité. Et je crois que ce n'est pas la première fois qu'on a des risques. Voilà, c'est toujours risqué pour un homme public. Hein. On a tiré sur Reagan, on a tiré sur le pape, on a y compris tiré sur Chirac, aux Champs-Élysées pendant le défilé du 14 juillet. Nous sommes dans une période où la tension quand même terroriste reste importante. Et on est aussi dans une période de troubles géopolitiques où des puissances étrangères pourraient chercher à manipuler ici ou là des personnalités pour produire des attaques contre des présidents ou des chefs d'État ou de gouvernement du monde occidental. Ce n'est pas impossible. Donc il y a toujours une part de risque. Mais moi, je fais confiance aux services de sécurité. Non, moi, ce que je trouve intéressant dans ce dialogue, c'est d'abord la disponibilité du président. Elle est classique, mais en même temps, je pense que c'est un rituel... républicain, de cette disponibilité du président qui part à la rencontre des Françaises et des Français. Là, c'est le salon de l'agriculture, mais cette espèce de dialogue, y compris retransmis par les médias, ce moment où les Français, eux aussi, ils ont envie d'aller attraper le président, de discuter, peut-être de l'interpeller, peut-être même, y compris dans un dialogue dur, notamment au salon de l'agriculture. Hein. On n'y va pas quand on est président uniquement pour avoir des bisous. Il faut savoir faire face à l'adversité. Moi, ça, j'aime beaucoup chez Emmanuel Macron, cette disponibilité. Je crois qu'il en a besoin et je pense aussi que les Français ont besoin de pouvoir. Hein, ça vient de loin. Hein. Ça vient d'un pays qui a été longtemps monarchique, où le roi avait ces rapports-là. Et je pense que ce sont des attitudes. Ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a ça. Et moi, je trouve que c'est très important, cette proximité, même si elle est momentanée, si elle est ritualisée. Eh ben, je pense que ça fait du bien aux Français de pouvoir attraper leur président et de le voir pouvoir être attrapé. Je pense que ça fait du bien d'avoir un président qui est comme ça.
Ensuite, mais comme l'a dit Jonathan Sixou, ça doit se faire aussi avec respect. C'est-à-dire qu'on ne tutoie pas son président. Il y a une façon de parler au président de la République. On dirait qu'il n'y a plus aucun respect du statut de président.
Alors moi, c'est moins ça qui me marque que l'attitude de cet homme ou de ce jeune homme qui est venu interpeller le président. Parce que c'est un trait nouveau. On y perçoit quelque chose de... Il défend une cause juste, et on pourrait la partager, c'est-à-dire la nécessité d'agir et la préoccupation sur le climat et la nécessité d'y agir et d'y agir de manière forte. Ça, on peut partager. La question, c'est comment est-ce qu'il attrape cette question, ce jeune homme, avec une dimension quand même assez mystique, une dimension messianique dans son discours politique. Il défend une cause politique, une cause majeure, le climat, on est d'accord là-dessus. Mais il y a une espèce de messianisme derrière ce discours, une espèce d'angoisse chez cet individu, on le sent, on le voit à travers ses yeux.
Il n'est pas ouvert au débat, il a dit aussi...
assez sectaire, fermé au débat, c'est-à-dire je viens pour prononcer... Pourquoi pas? On peut faire du happening politique, ça fait partie de la vie politique. Mais je pense que ça prend de plus en plus d'ampleur, ce discours politique fortement ancré de messianisme et parfois une dimension sectaire, peut-être fanatique, et qui m'inquiète un peu. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de traiter la question du climat qui demande une organisation générale de la société et des pouvoirs publics. Ce n'est pas par un nouveau messianisme qui nous rapporte quand même un discours quasi prophétique. Enfin, il faut arrêter. On les trouve maintenant dans certains discours politiques à l'Assemblée nationale. Et je trouve que ce n'est pas la bonne façon. Et moi qui viens de la gauche, et je termine, la gauche, elle est souvent prise dans une dimension messianique. Ce n'est pas la bonne façon d'aborder le problème pour transformer la société et atteindre les buts qui sont ceux du climat pour la préservation de la planète et de nos sociétés, et de répondre à cette question écologique qui est majeure, bien sûr.
Alors, on laisse répondre Jonathan Sixou, qui a sursauté lorsque vous avez parlé de discours juste.
Je ne suis pas tombé de mon tabouret, je suis resté assis. Bien sûr que le discours est juste, et bien sûr qu'on ne veut pas que la planète brûle, etc. Mais que cet individu, qui est un extrémiste de la cause, aille tenir ce propos auprès des chefs d'État qui doivent l'entendre. La France est le meilleur élève de l'Union européenne et quasiment donc du monde en matière d'émissions de gaz. Nous ne produisons qu'1% de gaz à effet de serre à l'échelle européenne. Qu'il aille avec son grand courage parler au président chinois, qu'il aille avec ce grand courage parler au président indien, à ce moment-là, on pourra peut-être considérer un petit peu la justesse de sa cause. On n'a pas à tenir ce type de propos à un président de la République française,
non, mais je comprends,
dans un passé et un présent et actuellement, qui font un boulot exemplaire pour justement avoir une
mais vous
alors,
savez,
le pendant, c'est une désindustrialisation, c'est une situation qui fait que nous sommes dépendants d'énormément d'autres pays, mais le résultat, c'est quoi? C'est que la France est un pays qui peut franchement être fier de son bilan carbone en général. Donc aller engueuler le président comme ça a été fait, c'est d'une part indécent et c'est d'autre part injuste parce que la France, et on en paie tous un peu le prix, se remonte vraiment les manches.
Je ne dis pas qu'il a un discours
pour avoir un résultat.
Attendez, on va laisser parler
positif.
Sébastien Codesso qui souhaite aussi s'exprimer.
Je suis d'accord avec beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Ce militant a l'air effectivement très habité, quasiment possédé par sa cause. Alors, sur un autre plan, il y a quand même un problème dans cette intervention. On est au salon de l'agriculture. On est en plein milieu du débat sur les retraites. Les agriculteurs, en toutes circonstances, sur tous les points de vue, galèrent comme pas possible. Et on a ce militant qui vient faire un happening pour une cause qui n'a rien à voir avec la situation des agriculteurs. Excusez-moi, c'est le salon de l'agriculture, c'est pas le salon de l'écologie. Le président vient voir les agriculteurs. Et à cause de ce happening et de ce militant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on invisibilise totalement les agriculteurs qui ont des choses à dire, qui ont des problèmes au niveau de leur retraite. On ne les voit pas, on n'en parle pas, on n'est pas en train d'en parler. On fait un sujet pendant 20 minutes où on parle de ce militant pour des choses, des banalités qu'il a dites, qu'on a entendues partout.
Après, l'agriculture peut être accrochée à des sujets liés à l'écologie.
Mais ce serait plus intéressant d'aborder sous cet angle-là. Mais le militantisme de cet individu, c'est ce que j'appelle du militantisme à la TikTok. Oui. Ça n'a aucun intérêt, aucune valeur ajoutée, alors qu'il y a des vraies situations qui se jouent derrière quand même.
Alors, juste une seconde. Les images qu'on vient de voir, c'était donc samedi matin. Plus tard dans la journée, un autre militant, toujours de dernière rénovation, a tenté de s'adresser au président. Cette fois, en revanche, le service d'ordre d'Emmanuel Macron a été beaucoup moins tendre avec lui. Regardez. Alors, Emmanuel Macron a déclaré ensuite, quand la question lui a été posée, ne pas avoir vu ce qui s'était passé, qui réprouve évidemment toute forme de violence. Il semblerait, selon nos confrères d'Europe 1, que cette personne interpellée violemment est fichée S, déjà connue donc des services de police pour avoir bloqué une étape du Tour de France en juillet dernier. Est-ce que ça nécessitait néanmoins une arrestation aussi musclée, Eduardo Riancipel?
Ça, c'est au service de sécurité du président d'apprécier. Je pense que quand on va avec un peu d'adversité vers un président de la République, qu'il faut imaginer qu'on puisse subir les foudres de son service de sécurité. C'était sans doute un peu dur, très dur, il y a pire, hein. mais ouais, un peu musclé, oui.
Bon, musclé, c'est quand même, c'est bien
bah
fait.
Oui, mais écoutez, franchement, on peut pas, si on veut s'adresser, quand on veut faire une action qui peut porter quand même à interprétation par les services de sécurité, je veux dire, si ces jeunes gens qui sont des militants sans doute très bien intentionnés, je ne veux pas dire le contraire, mais dans une période où il y a le risque terroriste s'approcher avec un petit peu de brutalité vers un président de la République, faut être un peu naïf. Hein. Excusez-moi, donc les services, ils font leur travail, d'accord? Ils font leur travail, et je pense que si on veut interpeller le président, il faut respecter un certain nombre de formes. Pour le reste, Moi, je suis un peu inquiet parce que ce nouveau messianisme écologique, c'est pas la bonne solution. Qu'il y ait des gens qui nous alertent, enfin, les gens du GIEC, je les vois pas s'exciter à faire des actions en tout genre. Ils viennent avec leur savoir et ils sont suffisamment importants et ils ont suffisamment d'autorité pour nous alerter. Moi, j'ai un peu une crainte. Il y a une nouvelle figure messianique qui naît autour du climat. C'est pas nouveau. Il y avait d'autres messianismes dans le passé, dans les années 70, dans les années 60, voilà, dont mai 68 n'a pas été totalement dépourvu. Moi, je serais pas étonné et je suis un peu inquiet que demain, on ait des actions qui montent de plus en plus crescendo pour le climat, dans une sorte de nouveau messianisme politique. Et je ne serais pas étonné que tôt ou tard, on ait des martyrs écologiques. C'est-à-dire des gens qui viennent faire martyrs d'eux-mêmes, au pire du terme, comme on a pu en avoir pendant certaines périodes, pour essayer de choquer et d'alerter les gens. Je pense que c'est ce type de dérive qu'on doit stopper, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va régler la question du climat. C'est une question fondamentale. Je pense que d'ailleurs que depuis un an, il y a eu des accélérations majeures en Europe pour la transition écologique et énergétique. Je rappelle que depuis la guerre de la Russie contre l'Ukraine, guerre totalement illégale et qu'il faut condamner, bien entendu, je le rappelle à chaque fois, eh bien, ça fait un an maintenant. Nous étions à l'époque en Europe dépendants à 50% du gaz russe. Je crois que maintenant, avec tout le travail qui a été fait pour ne plus dépendre autant des Russes, c'est plus que 10% de dépendance vis-à-vis du gaz russe en Europe au lieu de 50%. Donc quand même, on accélère un certain nombre de décisions vers la transition énergétique et écologique. Et je pense qu'on a besoin de cette jeunesse avec nous pour cette grande cause qui est une cause pour nous, pour notre civilisation, pour l'humanité, pour la planète. Mais ce n'est pas avec des actions qui tendent vers un nouveau fanatisme messianique qu'on va régler la question. Je suis très inquiet parce qu'une partie de la jeunesse va là-dedans et ce n'est pas bon signe pour moi. Je pense qu'il faut qu'on le prenne comme un signal faible de quelque chose qui ne va pas et qu'on a besoin de réordonner pour des buts collectifs plus judicieux.
Sébastien Codesso, que risquent ces militants écologistes lorsqu'ils mènent des actions? On parlait d'un militant qui avait bloqué une étape du Tour de France, lorsqu'il s'adresse peut-être brutalement, quand il agresse un président de la République,
on est sur le dispositif des violences aggravées. Ça dépend jusqu'où les violences vont aller. Le premier militant qu'on a vu, bon, effectivement, il n'est pas du tout dans les violences, sinon verbales éventuellement. Le deuxième militant, on peut considérer qu'il y a une tentative de faire quelque chose, de faire quoi? C'est ça la question, parce qu'il peut tout simplement dire qu'il s'est approché et qu'il voulait juste parler au président. Donc à ce stade-là, et avec les images dont on dispose, je vous dirais comme ça, pas grand-chose. Mais on a vu par le passé, attention, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, il y a effectivement une forme de, moi je dirais, sectarisme. Vous voyez, ces militants rentrent dans une forme de secte et le problème, c'est qu'ils sont persuadés de détenir la vérité. Et à partir du moment où ils sont persuadés de détenir la vérité, eh bien ça justifie absolument toutes les actions. C'est comme ça que ça se passe. Ça justifie d'aller voir le président de la République et de lui dire « Moi, je suis venu vous parler, je ne suis pas venu pour débattre. » En gros, le sous-texte, votre réponse, je m'en fiche. Je suis venu pour juste donner ce que moi, je dois donner. Vous voyez ? Et on a vu, ces derniers mois, il y a eu des actions de la part de militants écologistes, des dégradations, des gens qui bloquent le périphérique, choses comme ça. Et effectivement, on tend vers cette... Les œuvres d'art, absolument.
Pardon, c'est pas la première fois. Je pense qu'on va vers des... Si on pousse à bout cette logique, on aura demain des martyrs de l'écologie. Lisez les historiens du début du christianisme. Il y a, parmi les premiers chrétiens, il y avait les martyrs qui ont commencé à émerger pour manifester leur désapprobation face à l'Empire romain, pour défendre leur foi. On est quasiment dans des choses qui sont de cet ordre.
Et ça pose la question du terrorisme écologique. Vous voyez, le terrorisme écologique, il y a des critères, effectivement, mais il va peut-être falloir abaisser le seuil de ces critères.
Je pense qu'on
laisse aller à ces dérives, c'est tout.
On peut aller jusqu'à, effectivement, parler de terrorisme écologique lorsqu'on a l'impression que, finalement, ce type d'action... On gravit à chaque fois des échelons dans la violence, en fait, de ce type d'action. Est-ce que c'est pour justement attirer davantage l'attention?
C'est le propre du fanatisme.
Je pense que c'est en phase avec la violence de notre société, qui est de plus en plus violente de toute façon, dans les rapports, que ce soit des violences verbales ou des violences physiques. Donc le combat politique quel qu'il soit, le combat idéologique quel qu'il soit, va dans la surenchère également. Et là où, effectivement, on pourrait avoir à terme des martyrs de la cause écolo, c'est qu'ils cherchent les coups quand ils bloquent le périph, quand ils bloquent l'autoroute, quand
Ils s'opposent. Quand ils taguent la façade.
Quand ils taguent la façade, ils se mettent en avant. Et on est à deux doigts à chaque fois, souvenez-vous des images hyper violentes, du dérapage du bonhomme en face qui est exaspéré, qui ne peut pas aller à l'aéroport, qui ne peut pas aller bosser, qui ne peut pas rentrer chez lui. Personne n'est à l'abri de ce dérapage qui fera qu'un jour un type se prendra un coup de trop. Mais en même temps, c'est là où on est dans une sorte de si la définition du terrorisme c'est l'accomplissement d'une idée politique accompagnée de violence, on est dans une définition du terrorisme.
Je peux vous donner la parole, mais 20 secondes, Eduardo, on a la pub juste derrière.
Dans une démocratie, et on ne peut pas accepter la violence. Il faut accepter le dialogue et le débat contradictoire. On ne peut pas permettre effectivement, et on voit très bien que ce jeune homme a dit « je ne suis pas là pour débattre ». Bon, ben très bien. Qu'on alerte les consciences, oui. Qu'on soit donc lanceur d'alerte. Qu'on éveille les consciences sur la cause du climat, oui. Qu'on fasse tout pour défendre publiquement sa cause par le discours, mais qu'on accepte aussi le débat. Et à un moment donné, il y a des élections, il y a une démocratie, et on ne peut pas s'astreindre sous prétexte qu'on a raison sur le climat ou sur l'avenir de la planète ou de l'humanité, d'aller vers des formes de violence. Ça, ce n'est pas acceptable parce qu'à ce moment-là, toutes les violences sont ouvertes. Et donc, moi, je crois qu'il faut qu'on revienne aux règles fondamentales de la démocratie, qu'on défende ses idées, mais qu'on ne permette pas qu'on ait une augmentation de la violence et qu'on accepte de débattre à un moment donné. On ne peut pas être « je viens ici, je déclare et je me casse ». Ce n'est pas possible. On peut le faire dans une action de lanceur d'alerte, de happening politique, parce que ça fait partie du jeu. Allez, jusqu'à lancer de la peinture, mais non fanatisme, non messianisme, et oui aux règles de la démocratie pour régler cette question du climat et de la planète.
Allez, un tout autre sujet dans un instant. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, promet une aide financière spéciale pour les athlètes ukrainiens à l'approche, bien sûr, des Jeux Olympiques de Paris 2024. On en parle dans un instant avec mes invités pour la suite de 90 Minutes Info sur CNews. Restez avec nous. 16h29 sur CNews, nous sommes de retour sur le plateau de 90 Minutes Info, toujours en bonne compagnie, Jonathan Sixou, Sébastien Codesso et Eduardo Riancipel pour la suite de nos débats. On va notamment parler de cette décision de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui promet une aide financière spéciale pour les athlètes ukrainiens en pleine préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024. On va en parler juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est quasiment 16h30, il est l'heure de retrouver Adrien Spiteri.
Tous les syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible, et ce à partir du 7 mars prochain. Ils veulent se mobiliser pour montrer leur opposition à la réforme des retraites. Le 16 février dernier, 440 000 personnes se sont rassemblées dans le pays, selon le ministère de l'Intérieur. Pierre Palmade va être incarcéré. La cour d'appel de Paris a décidé son placement en détention provisoire ce matin. Il est assigné à résidence à l'hôpital après le grave accident de la route qu'il a provoqué le 10 février dernier. Il a été transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre ce week-end suite à un AVC. Et puis Londres et Bruxelles trouvent un accord sur l'Irlande du Nord après un an de différends concernant les dispositions post-Brexit. Rishi Sunak et Ursula von der Leyen sont réunis à Windsor cet après-midi. Le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne doivent tenir une conférence de presse commune.
Merci Adrien. Adrien Spiteri pour le rappel des titres CNews. Dans l'actualité cet après-midi, une décision controversée à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a promis une aide financière spéciale pour les athlètes ukrainiens. Une annonce qui a fait réagir une athlète française, Ayodele Ikwesan. C'est un sujet de Maureen Vidal.
C'est un message qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'athlètes français font des appels aux dons pour préparer les JO 2024, vivent avec le RSA ou enchaînent plus de 20 heures d'entraînement hebdomadaire, n'ont pas de retraite, doivent bénévolement faire des activités pour le grand public, vive le sport.
Cette athlète olympique dénonce les difficultés de certains sportifs français, contraints de créer des cagnottes pour financer leur préparation aux Jeux Olympiques.
C'est une bonne nouvelle qu'on ait des budgets pour le sport français, qu'on est aussi on est en plein débat sur les retraites. Il y a un gros sujet sur les retraites des sportifs de haut niveau. Et donc, c'était aussi l'occasion de dire, bah, vu que les caisses ne sont pas vides, eh bien, profitons-en pour parler aussi des problématiques que rencontrent les sportifs français qui préparent les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Elle souligne toutefois la solidarité nécessaire avec le peuple ukrainien.
la solidarité internationale à l'échelle du monde olympique a toujours existé, et c'est une bonne nouvelle en tout cas que la France s'inscrive dans cette solidarité.
En France, les sportifs olympiques peuvent toucher les aides de la part de leur fédération, mais la plupart du temps, ils comptent sur leurs sponsors pour financer leur préparation aux Jeux olympiques.
Alors, Jonathan Sixou, je sens que ce sujet vous inspire. Vous comprenez la réaction de cet athlète qui se dit oh « bah, on aide des athlètes ukrainiens, c'est bien, mais à côté de ça, on a des athlètes chez nous qui galèrent pour se préparer, qui sont obligés voilà, de faire appel à des cagnottes pour pouvoir préparer ces Jeux olympiques, pour pouvoir trouver des sponsors aussi. »
Parfaitement. Je voulais appuyer ce qui vient d'être dit par cet athlète dans le deuxième temps de ma remarque, si vous me le permettez, parce que je voulais commencer par dire que je me régale en entendre ce type de déclaration du ministre. Entre Anne Hidalgo qui nous dit qu'elle ne veut pas d'athlètes russes à Paris et ces ministres au grand cœur qui nous font des déclarations choc comme ça, je pense qu'on va avoir quelques perles d'ici 2024 qui pourront à force nous faire un beau collier.
C'est une façon encore de politiser le sport.
Ça transforme tout en gadget politique. Moi, j'ai une super proposition à faire. Qu'on octroie la médaille d'or automatiquement à tous les athlètes ukrainiens et puis aux athlètes étrangers autres de se partager l'argent et le bronze. Voilà. Ensuite, ce qui se passe dans le sport, on le voit ailleurs. Au nom de la solidarité qui, encore une fois, dans certains cas, est parfaitement légitime et même se doit d'être tenue et exemplaire, on voit que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, eh bien, bien souvent, ce sont les Français qui passent au second plan.
Sébastien Codesso, aider les Ukrainiens dans leur quotidien, impactés par la guerre, c'est une chose évidemment qu'on peut comprendre. Aider des athlètes à participer aux Jeux Olympiques, est-ce qu'il y a une vraie nécessité finalement ?
Charité bien ordonnée commence par soi-même. On a des athlètes en France exceptionnels dans tous les domaines du sport. Voilà, je pense au sport de combat, je pense à des... vous savez, là, on voit très souvent en ce moment des Cyril Gane, des personnes qui sont en train d'exploser, qui sont très talentueux. Qu'on les aide, eux, qu'on débloque des moyens pour eux, d'abord. Voilà, qu'on se développe nous-mêmes dans les disciplines, dans toutes les disciplines possibles. Et après, on verra effectivement comment aider les autres. Mais ça, je trouve ça assez inadmissible. Ce cri d'alerte hein, de cette sportive, je le trouve tout à fait juste. Il est nécessaire et je comprends le sentiment d'injustice quand on sait que ces athlètes, eux, sont obligés de galérer deux fois plus que les autres. Quand vous avez des athlètes qui, pour des raisons politiques, se font finalement octroyer des aides comme ça, comme vous l'avez très bien dit, bah, écoutez, je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Voilà.
Et comme l'a très bien dit Jonathan Sixou, on va à la prochaine étape, effectivement, c'est de distribuer toutes les médailles d'or aux athlètes ukrainiens. Eduardo Rian-Sipel, est-ce que vous êtes de cet avis ?
Non, et puis je vais éviter les caricatures. Je pense que c'est une solidarité sportive qui est bienvenue, qui est importante, qui est assez logique.
Mais est-ce que la situation des Ukrainiens, la solidarité, on la comprend lorsqu'il s'agit d'accueillir des réfugiés, lorsqu'il s'agit d'aider pour se nourrir, Voilà, il y a une nécessité d'aider des personnes qui sont dans le besoin, dans le quotidien, mais dans le sport. Est-ce qu'il y a une vraie nécessité ?
C'est vrai que c'est la priorité d'être dans la vie concrète et dans les moyens de subsistance à leur existence alors qu'ils sont en guerre et qu'il faut aider, y compris au plan des réfugiés. Je rappelle qu'ils sont 7 à 8 millions d'Ukrainiens à être partis, s'être exilés de leur pays, qui sont accueillis en Europe, et c'est une bonne chose. Mais vous sous-estimez, je crois, le rôle du sport, de la visibilité à l'échelle mondiale, de ce que les anglo-saxons appellent le soft power et que nous pouvons tout simplement aussi appeler l'influence. Je pense que la place dans un grand moment sportif mondial comme les Jeux Olympiques est une place importante qui peut aussi participer du message, de l'information et de la prise de conscience et du soutien moral aux Ukrainiens. Et je pense normal d'aider des athlètes ukrainiens, et j'espère que la France ne sera pas seule. Il faut que le CIO aussi y mette du sien, et je pense qu'ils le font. Pourquoi ? Parce que ce sont des athlètes qui peut-être ne peuvent pas s'entraîner chez eux, ou alors les conditions sont totalement anormales. Et je pense normal que la visibilité de l'Ukraine, ce serait une victoire pour Poutine.
Ce n'est pas une façon de politiser le sport, selon vous ?
Je pense qu'on a... écoutez, le sport n'est pas totalement dépourvu de valeurs, et notamment les valeurs de respect de l'autre, de tolérance, de paix entre les nations, de paix entre les peuples, alors que M. Poutine agresse totalement injustement l'Ukraine et on voudrait effacer l'Ukraine des Jeux Olympiques ou leur donner moins de moyens.
Il y a une différence entre...
Je suis d'accord.
En revanche, comme l'a dit Jonathan Sixou, certains veulent que les athlètes russes soient exclus des Jeux Olympiques.
Oui, je pense que la question peut se poser. Mais
et les athlètes saoudiens, vous souhaitez également qu'ils soient exclus?
Non, je ne veux pas rentrer dans le débat et je voudrais qu'on cadre le débat. Le débat, c'est
la Coupe du Monde,
doit-on aider?
On peut les exclure aussi?
La question, c'est doit-on aider? Est-ce que la France a raison d'aider financièrement les athlètes ukrainiens? Je pense que oui. La question, est-ce que c'est contradictoire avec le soutien des athlètes français? Non, j'ai entendu qu'il y a une athlète qui s'est exprimée très bien. Et peut-être que s'il y a des athlètes qui galèrent, qui sont obligés uniquement de faire des appels aux dons, ce que je ne pense pas que ce soit le seul cas, mais s'il faut aider davantage les athlètes français, qu'on y réfléchisse. Mais de grâce, qu'on ne vienne pas critiquer l'aide française du gouvernement français aux athlètes ukrainiens, alors qu'ils souffrent la guerre et qu'ils ont des conditions moins importantes que d'habitude. Pour y affronter. Je pense que c'est important qu'on les soutienne aussi là. Et il ne faut pas sous-estimer, y compris dans le cadre de la pression et de la guerre, il ne faut pas sous-estimer ce que la présence des Ukrainiens, comme il faut, aux Jeux Olympiques de Paris peut susciter. Et j'espère que d'ici là, la question sera réglée, mais je crains que ce soit une guerre de long terme. Donc, s'il vous plaît, pas de division entre notre aide aux athlètes ukrainiens.
On peut comprendre que des athlètes français qui ont des financements...
Bah, écoutez, que ça soit un peu choqué. Je comprends. Non, mais choqué, je pense pas. Mais que si ça permet d'éclairer et d'avoir une discussion avec les autorités françaises, peut-être pour aider là où il y a des difficultés pour les athlètes français, très bien. Et je pense que la France se prépare bien à ces Jeux Olympiques. Nous avons un grand sport français, nous avons un grand athlétisme. Nous finançons énormément par rapport à d'autres pays. Nous avons des fédérations. Et je veux rendre un grand hommage à tout le sport français. Tous ces réseaux amateurs qui permettent au sport français d'être le plus professionnel possible.
Allez, la pause et on revient juste après. On va parler notamment de Ian Fleming à l'occasion des 70 ans de Casino Royale. L'intégralité de la série James Bond de Ian Fleming a été republiée. Petite particularité, plusieurs passages ont été réécrits. Vous allez comprendre dans un instant. Restez avec nous pour la suite de 90 Minutes Info. Dernière partie dans un instant sur CNews, toujours en direct. Dernière partie de 90 Minutes Info sur CNews, toujours en direct avec Jonathan Sixou, Sébastien Codesso et Eduardo Riancipel. On va poursuivre nos débats à présent avec cette polémique au Royaume-Uni à l'occasion des 70 ans de Casino Royale. L'intégralité de la série James Bond de Ian Fleming a été republiée. Petite particularité, plusieurs passages ont été réécrits, figurez-vous. Alors, pour quelle raison? On voit ça avec Mickaël Dos Santos.
James Bond a trouvé plus fort que lui en la personne des Sensitivity Readers. Ces relecteurs, qui traquent les mots jugés choquants pour notre époque, ont censuré plusieurs passages des aventures de l'espion britannique. Fini le mot nègre et autres références à caractère raciste sur les Africains et Afro-Américains des années 50 et 60. Désormais, les lecteurs de l'œuvre de Ian Fleming liront le barman au lieu du barman noir. Dans le livre « Vivre et laisser mourir », certains passages ont plus largement été coupés, comme quand James Bond entre dans un club de striptease du quartier d'Harlem à New York.
Bond pouvait entendre le public haleter et grogner comme des porcs devant l'abreuvoir. Il sentait ses propres mains empoigner la nappe.
Un passage qui est devenu dans l'édition 2023.
Bond pouvait sentir la tension électrique dans la pièce.
Étrangement, les références à la communauté asiatique, au viol ou encore à l'homosexualité ont été maintenues. Un choix visiblement assumé par l'éditeur.
Nous avons examiné différents mots raciaux dans les livres et avons fait le choix d'en supprimer une partie ou de les remplacer par des termes équivalents et mieux acceptés de nos jours.
Cette polémique surgit quelques jours après la réécriture des passages du livre Charlie et la chocolaterie. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak et d'autres hommes politiques du pays s'en étaient d'ailleurs inquiétés.
Voilà qui devrait faire grincer des dents les puristes de l'agent 007. On avait parlé en effet la semaine dernière de l'œuvre de Roald Dahl, hein, Charlie et la chocolaterie. À vrai dire, si on s'amuse maintenant à réécrire toutes les œuvres dont certaines formulations sont considérées comme racistes aujourd'hui, on va avoir, à mon avis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Il ne restera rien.
Il ne restera rien.
La culture woke est en train de poursuivre, plutôt de perfectionner ce que les soviets avaient inventé et ce que le stalinisme avait perfectionné. Vous savez, cet effacement de tout ce qui gêne, des opposants et autres. On gratte les photos et on expurge...
Ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture.
Ce qu'on appelle la cancel culture aujourd'hui. Il y a l'effet de mode, l'appât du gain, parce que si les ayants droit s'y opposent, il n'y a pas de réécriture. Il y a quelques jours, à Londres toujours, je ne sais plus quel est le nom de ce metteur en scène, mettait en... sur scène en attendant Godot. Et le théâtre n'a pas programmé la pièce parce que ce metteur en scène avait eu le malheur de ne mettre que des hommes sur scène alors que Beckett a écrit cette pièce pour des hommes. Les ayants droit se sont opposés à ce que, en attendant Godot, ce soit joué par des femmes puisque Beckett l'a écrit pour des hommes. La pièce n'a toujours pas été montée. Donc si on veut s'y opposer, on peut s'y opposer. Heureusement que ça marche. On voit l'appauvrissement. Là, les deux extraits que vous avez passés, la scène du bar, elle est équivoque. Vous la visualisez avec ses ports à l'abreuvoir. Vous voyez l'atmosphère. Qu'est-ce que vous comprenez à la version expurgée qui est donnée au lecteur de
l'auteur ? C'est un massacre pour l'auteur, en fait.
Ah, mais l'auteur n'existe plus. Le travail de littérateur n'existe plus. Et la question qui est intéressante de se poser, je pense aussi, c'est où mène cette hyper-susceptibilité ? On nous dit que c'est pour éviter que les gens soient heurtés, que les gens soient blessés. Mais de quoi parle-t-on ? En quoi écrire un barman noir est insultant et qu'il faut écrire un barman ? On va droit dans le mur, là aussi, concernant la culture. Ce qui me rassure, c'est que les Français font plutôt de la résistance dans ce domaine.
Sébastien Codesso, ça vous inquiète que des éditeurs commencent à plier à ce genre de demande ?
Bah oui, oui, ça m'inquiète. En fait, plus besoin de lire, plus besoin d'aller au cinéma, on vit déjà dans une dystopie. Voilà, on est déjà en train de vivre quelque chose de surréaliste et qui, effectivement, est très inquiétant. Parce que ça commence par des petites touches comme ça, vous voyez, on fait disparaître le passé. À partir du moment où on fait disparaître le passé, ça n'est pas possible. À partir du moment où on dit, on va faire comme si toutes ces choses-là n'avaient pas existé, comme si elles n'avaient pas été dites, ça n'est pas possible, vous voyez. C'est pour ça que je parle de dystopie. Je fais évidemment référence à des œuvres comme 1984, où bientôt, pour en fait pouvoir se rapprocher de la vérité, il faudra aller ne chercher que vers des livres d'occasion, dans leur première rédaction, qui auront disparu maintenant dans la société. Ça, c'est le début du phénomène. Ça va devenir quoi après ? On va juger que certains auteurs sont, j'utilise leur terme, problématiques. Donc, on va censurer leurs livres. Je pense à J.K. Rowling. Je suis un grand lecteur d'Isaac Asimov. Isaac Asimov, il est souvent critiqué pour son rapport avec les femmes. Son œuvre Fondation, qui est très connue, un pilier de la science-fiction. On va faire quoi ? On va arrêter d'éditer Isaac Asimov ? Des auteurs comme ça qui sont... La question s'est déjà posée en France. On a eu des polémiques avec Céline et autres. Finalement, ces œuvres ont été publiées.
Et c'est une façon aussi de réviser l'histoire en disant ça n'a pas existé.
C'est ça le problème.
On parlait des Noirs comme on en parle aujourd'hui, ce qui n'est pas vrai finalement. Édouard Dorian-Sipel.
Oui, c'est une logique inquiétante et dangereuse que de céder à une sorte de nettoyage hygiénique du langage, surtout s'agissant d'œuvres de culture, notamment les livres. Pourquoi ? Parce que toute œuvre culturelle, un livre par exemple, puisqu'on parle de Ian Fleming et des James Bond, toute œuvre est située dans son époque et reflète la mentalité de son époque. Et je pense qu'il est important qu'on puisse appréhender les œuvres, à la fois pour ce qu'elles nous disent, et aussi pour saisir quel était l'esprit de l'époque. Et puis effectivement, je crois que c'est une opération des éditeurs de Fleming, qui clairement sentent de très loin les intérêts commerciaux fondés sur du politiquement correct pour choquer personne, très bien. Mais je trouve qu'on dénature d'une part la réalité d'une œuvre, son inscription dans son époque, et je trouve que vraiment l'opération la plus dangereuse, c'est cette espèce de nettoyage, d'effacement d'un langage d'une certaine époque. Or, ce qui compte, ce n'est pas d'effacer les textes du passé.
C'est d'avoir évolué aujourd'hui.
Exactement, et c'est de fonder un esprit critique dans le lecteur contemporain, le lecteur contemporain. Ce qui compte quand même, on est la République, on est la France, et Dieu sait que si dans ce pays on a eu des œuvres de diverses qualités, de grandes qualités universelles, et des auteurs qui sont peut-être parmi les plus grands de la littérature, et aussi, parfois chez certains d'entre eux, les pires salauds, comme Céline, qui est profondément antisémite, mais qui reste un grand littérateur. Et donc, il appartient à la critique, au lecteur, de pouvoir être armé intellectuellement pour savoir situer une œuvre.
Donc, c'est une façon d'infantiliser, finalement.
Je trouve que c'est une infantilisation. C'est surtout quelque chose de dangereux, mais qui a une pure portée commerciale. Je pense que les éditeurs ont un seul intérêt commercial, de faire de l'argent. Donc, de ne choquer personne dans une époque où on commence à être attaqué, parce qu'effectivement... il y avait des propos plus ou moins portés, racistes, ou avec stigmatisants, etc. Donc je pense que les éditeurs cherchent à se préserver de la critique, on peut les comprendre.
de n'être attaqué par personne, mais je trouve que c'est pas la bonne manière. Je pense qu'il faut laisser les œuvres comme elles sont. Et quitte à faire je pense qu'il aurait été plus judiciable que si les éditeurs voulaient répondre à ça, qu'ils fassent un avant-propos, une préface critique.
On parle de monde quand même, on va pas faire une préface critique.
Pourquoi pas ? Si c'est une inquiétude, si c'est mal compris, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, mais toucher à l'œuvre, surtout quand il s'agit d'œuvres de fiction et de littérature, je trouve que c'est dangereux. Parce que là, on va vers un effacement, un nettoyage hygiénique du langage qui me paraît être très, très dangereux pour une société démocratique.
Et à noter que ça fait un moment que James Bond est aussi dans le collimateur d'associations féministes qui estiment que l'agent secret est misogyne et que James Bond Girl incarne un cliché sexiste. Il se dit même que le prochain James Bond pourrait être incarné au cinéma par une femme, Jonathan Sixou. Une femme de couleur, une femme noire. Merci en tous les cas à tous les trois d'avoir été à mes côtés cet après-midi. C'est la fin de 90 minutes info. Merci donc à Jonathan Sixou, Sébastien Codesso, Eduardo Rayan-Sipel. CNews.fr évidemment pour revoir notre émission et l'ensemble de nos programmes. Aymeric Gontier était à la réalisation. Au son, il y avait Jean-François Couvelard, Bouka Abella à la vision. Merci à Samuel Vasselin et Coralie Deleplace. Dans un instant, c'est Punchline présenté par Laurence Ferrari. Bonne soirée sur CNews, à demain.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.